Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, mais...
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est dans le mettre. Là, on peut le mettre.
Mais ça n'est pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas là, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Classe.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues paroles, hein ?
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela ?
C'est dans le mètre.
Là, dans le mètre.
Vous allez le mettre où, ça ?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de pauvre. C'est tant que je pas toucher. Mais il y a quand même curieux, non? 100 fois, tu dis, jamais tombé en panne.
Aujourd'hui, mercredi 13 janvier, c'est la Saint Restaurateur. Saint Restaurateur est le saint patron de l'avant-garde révolutionnaire qui doit guider le peuple vers un avenir radieux. Menu complet à 13,50€, boisson comprise, soirée karaoké en option. Non mais bien sûr, et évidemment, après des décennies d'acculturation politique, d'individualisme à crédit et de consommation de masse débile et avilissante, il ne faut pas s'étonner que dans le peuple plus ou moins jauni de France, chaque petit événement, chaque manifestation de colère, d'où qu'elle vienne et quoi qu'elle veuille, entraîne des espoirs ahurissant, et il n'est donc pas surprenant de lire dans le marécage des zéros sociaux que si Saint Restaurateur bouge, s'il sort dans la rue, alors là, ça va péter. Et puis vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis ? Ah ben là, on a vu le peuple prendre d'assaut le lieu du pouvoir, le peuple, ouais. Qu'est-ce qu'on attend, nous, ici, hein ? Ah ben, on est des moujons, voilà, hein. On regarde trop BFM. Personne ne veut voir que Trump est le résistant global et qu'il doit faire face à un complot pédo-sataniste organisé par l'État profond. Ah, il n'y a que les éveillés qui sont au courant. Et puis regarde-les avec leur vaccin. Si on n'a pas compris que c'est Rothschild qui veut asservir les gens en leur implantant des puces pour les tracer, alors que la Covid, elle a justement été créée en laboratoire pour supprimer les gens qui sont en trop. Et ben voilà comment ça se termine. Les moujons, ils vont se faire vacciner sans même savoir qu'est-ce qu'il y a dedans dans le vaccin. Ouais, comme le kebab, ouais. Mais il n'y a pas la 5G dans le kebab. Si, quoi, hein? Dans la sauce blanche? Oh merde. saint restaurateur, c'est le symbole même des errements psychosociaux de la petite bourgeoisie. Il est à son compte. Et c'est le rêve absolu de la France qui se lève du mauvais pied, être à son compte. Il offre la possibilité de manger des bonnes choses qu'il a achetées sous vide, versées dans une assiette et réchauffées au micro-ondes, pour que le menu peuple puisse lui aussi goûter aux choses authentiques. Ah bah c'est meilleur qu'à la maison, hein. T'imagines pas la gueule des écuelles domestiques quand l'industriel et agroalimentaire s'en mêle. Alors que la masse des petits commence à fondre comme sorbet au citron, avalée par la gloutonnerie sans fin du grand capital, les dernières illusions héritées de cette aspiration au chacun pour soi résistent. Et il n'est pas dit que la prochaine prise de la Bastille ne sera pas le fait des auto-entrepreneurs. Pour une auto-révolution qui nous auto-libère. Ah bah, et les gars, on a les 100 culottes qu'on mérite, hein. Mais non, mais les mecs, tu leur vends un crédit, ah bah ils repartent aussi secs pour leur ruine, hein, ad vitam aeternam. C'est ainsi que Saint Restaurateur fut canonisé entre des produits périmés, des salariés partiellement enchômagés, et puis lui passant sous le nez les milliards d'argent public généreusement octroyés au CAC 40. Ah, tu vas voir que tout ça, c'est de la faute aux musulmans. Aujourd'hui, mercredi 13 janvier 2021, le soleil s'est levé, les moustaches en croix sur le carreau. Il s'est couché de la graisse plein d'étifs, des gros points noirs sur le pif. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur campusstyle.com.
Il s'agit d'un boui-boui bien crado, où les mecs par-dessus le calando se rince la cloison au coup de chef maison. Un Bordeaux, pas piqué des hannetons. De temps en temps, y a un vieux pull à sueur qui s'offre un vieux jambon au vieux beurre. Et puis une nana, une jolie drôlesse qui lui vante son magasin à fesses. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Il a de la graisse plein les tifs, des gros points noirs sur le pif. Quand Bruno fait le menu et le sert, t'as les premières douleurs au dessert. L'estomac genou qui demande pardon, les boyaux qui tricotent des napperons. Les rotules de grand-mère, c'est du beurre à côté du beefsteak pomme vapeur. Si avant d'entrer, il te reste une molaire, un conseil, tu la laisses au vestiaire. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Sa femme est morte il y a 3 mois d'un ulcère à l'estomac. Dans le quartier, même le mois le plus doux, tu ne risques pas d'entendre miaou. Des greffiers mignons, il n'y en a plus bézef. Ils sont tous devenus terrines du chef. Je me souviendrai longtemps d'un gazier qui voulait à tout prix du gibier. Il chuta avant de sucer les os, les moustaches en croix sur le carreau. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Il envoie des postillons, ça fait des yeux dans le bouillon. Sois prudent, prends bien garde au fromage. Son camembert a eu le retour d'âge. Avant de l'approcher, je te jure que t'hésites. Ou alors c'est que t'as de la sinusite. Comme Bruno a un gros panari, le médecin a prescrit le bain-marie. Mais subrepticement, en t'amenant l'assiette, il le glisse au chaud dans la blanquette. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Rien qu'à humer le mironton, t'as la gueule pleine de boutons. Il s'agit d'un boui-boui bien crado, où les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison au croc-chef maison. Un Bercy pas piqué des hannetons. Cet endroit est tellement sympathique, y a déjà le tout Paris qui rapplique. Un petit peu déçu de pas être invité, ni filmé par les actualités. Au Torboyo, le patron s'appelle Bruno. Allez vite le voir avant qu'il s'achète la tour d'argent.
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pochiche de Radio Campus, comme tous les mercredis à cette heure-ci, ou à peu près. Ce soir, il sera question de la loi sécurité globale et logique sécuritaire, du son qu'on a trouvé sur Radio Cayenne. Vous pourrez également écouter Georges Gastaud et son cours de philosophie générale tiré de son livre « Lumière commune, traité de philosophie à la lumière du matérialisme dialectique » paru aux éditions Delga. Ce soir, la première partie, le matérialisme dialectique, mais tout de suite, la jolie voix de Maxime Vivas, écrivain et administrateur du site Le Grand Soir, c'est du son piqué sur Radio Mampaïs, Toulouse. Et c'est l'heure de le mettre.
Radio Campus.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais.
106,6.
J'emprunte une partie de ce qui va suivre à mon ami Théophraste, éditorialiste du site Le Grand Soir, qui affirme « J'ai résolu le mystère du silence totalitaire des médias sur les drames quotidiens sanglants, souvent horribles, qui parleraient pourtant à l'émotion du peuple et donc à l'audimat ». En 1865, dans la préface de leur roman « Germini l'acerteux » qui évoquait les malheurs d'une servante, les frères Goncourt se demandaient si, je cite, « dans un pays sans caste et sans aristocratie légale, les misères des petits et des pauvres parleraient à l'intérêt, à l'émotion, à la pitié, aussi haut que les misères des grands et des riches, si, en un mot, les larmes qu'on pleure en bas pourraient faire pleurer comme celles qu'on pleure en haut ». Quand on voit les éloges insensés pour un Giscard dit d'Estaing, qui fit guillotiner Ranucci, qui prit pour ministre Maurice Papon, lequel avait fait déporter des Juifs pendant l'occupation, on peut dire que la réponse est non. Giscard ayant fait mettre en berne les drapeaux de la France à la mort de Franco, on peut redire que la réponse est non. Nous vivons dans un monde où l'émotion, la pitié et les larmes vont aux misères des grands et des riches. Chaque jour, il meurt au travail un ouvrier, souvent dans des circonstances télégéniques. Télégéniques comme les sanglots de la veuve et des enfants. Mais, s'il vous plaît, montrez-moi plutôt un accident de la route, un incendie de maison ou de forêt aux États-Unis, une inondation, mais pas des horreurs imputables au libéralisme. J'ai failli dire un gros mot. On attend vainement de voir un journaliste de la télé filmé devant un chantier. Eh bien, je me trouve à quelques mètres devant l'endroit où Caetano da Silva a trouvé la mort. Derrière moi, eh bien, l'échafaudage d'où il est tombé ce matin. J'ai à mes côtés une passante qui, eh bien, a assisté au drame et qui... Ou alors, eh bien, je me trouve devant l'entrepôt où Bébert Lambert a perdu la vie ce matin. Il a été heurté à la tête par un engin, eh bien, de manutention qui a fait éclater son casque. Le drame, eh bien, s'est produit dans le bâtiment que vous voyez, eh bien, derrière moi. J'ai à mes côtés Abderrahman Benchakar, un collègue de la victime, qui, eh bien, a assisté à l'accident et qui, eh bien, a accepté, etc. Montrer les souffrances du peuple, les filmer, les dire... En parler, donc, dans des articles ou des livres, c'est indécent et pour tout dire, pornographique. Pornographique. Savez-vous ce que disaient les critiques sur Émile Zola ? Zola, rappelons-nous, c'est Germinal, la terre, l'assommoir, au bonheur des dames, etc. Mais quel sort lui réservaient les chiens de garde ? Il disait ceci, on croit rêver avec le recul, mais si un critique en dit autant d'un auteur d'aujourd'hui, on le gobera pareillement, pas vrai ? Les critiques, donc. Le texte de Zola est trivial et pornographique. On y rencontre la laideur, l'ordure, une écriture couleur de boue, une littérature putride. Il remue le fumier d'Augias, du Hugo en plus grossier, non décapé, brut de fonderie. Un sanglier qui écrit des choses à ce point hideuses qu'elles donnent la nausée. Voilà ce qui lui en coûta d'écrire sur le travail, sur la vraie vie, et de dépeindre les hommes sans embellir ou cacher la réalité. C'est le crime de Zola. Zola cherche à donner une représentation authentique et forte de tous les aspects du réel. Il dépeint avec précision un univers bien défini. Tout repose sur une expérience vécue. Il écrit après avoir mené de minutieuses enquêtes préalables. Il se livre à l'investigation sur place. Il consulte des documents. Il rencontre les protagonistes. Il les observe. Il ne commencera la rédaction de Germinal en 1885 qu'après une enquête sur la mine d'Anzin dans le nord de la France l'année précédente. Écoutons-le expliquer sa méthode. J'ai l'hypertrophie du travail vrai, le saut dans les étoiles sur le tremplin de l'observation exacte. Le saut dans les étoiles sur le tremplin de l'observation exacte. Le romancier doit s'en tenir aux faits observés, à l'étude scrupuleuse de la nature, s'il ne veut pas s'égarer dans des conclusions menteuses. Il expose simplement ce qu'il a vu. Nous donnons la hautaine leçon du réel. Nous donnons la hautaine leçon du réel. Zola poursuit, l'homme n'est pas seul. Il vit dans une société, un milieu qu'il a produit lui-même, qu'il modifie tous les jours et au sein duquel il éprouve à son tour une transformation continue. Oui, décidément, un vrai pornographe ce type. C'est pourquoi les écrivains, les journalistes, les philosophes, les sociologues sont invités à parler d'autre chose. Et ils le font très bien d'ailleurs. Par exemple, quand meurt un président de la République retiré des affaires depuis presque 40 ans. Attendez-vous à vous faire engluer dans la guimauve poisseuse quand notre dinosaure de presque 95 ans, la reine d'Angleterre, va rejoindre le royaume des inutiles. Si je pouvais être envoyé alors à Londres par Radio Mon Pays, je dirais « Eh bien, je me trouve devant Buckingham Palace où les télévisions, les radios du monde entier et une foule eh bien considérable sont là, eh bien, pour rendre hommage à cette reine dont la longévité, eh bien, s'explique par une vie qui la mit à l'abri de tout accident du travail. En effet, la reine ne grimpa jamais, eh bien, sur un échafaudage, ni jamais ne s'approcha d'un engin de chantier. » À la semaine prochaine, camarade Manin, gueux, roturier, obscur, sans grade, qui parfois saute jusqu'aux étoiles sur le tremplin de la colère, cette vertu qui pousse trop rarement des gens du ruisseau à brûler des châteaux.
Météo, ton cabre à la gilet aussi. J'ai des paysans, moi je leur aurais fait là.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Bonjour, chers amis. Voilà, je vais aujourd'hui vous présenter une petite vidéo sur la notion de matérialisme dialectique en relation avec ce livre, Lumière commune, traité de philosophie générale à la lumière du matérialisme dialectique. Donc, que veut dire le mot matérialisme dialectique ? Souvent, on confond le matérialisme dialectique avec la philosophie marxiste. Alors, il est vrai qu'il y a un rapport étroit entre le matérialisme dialectique et le marxisme, mais le matérialisme dialectique est un des courants les plus anciens qui soient de la pensée philosophique, et peut-être même, je dirais, de la pensée rationnelle en général, en incluant en elle la philosophie et la science. En effet, si vous voulez, pour ce qui me concerne, je fais remonter le matérialisme dialectique, au moins à titre de philosophie spontanée, à Thalès de Milet, Thalès auquel est attribué le fameux théorème. Et donc Thalès, si vous voulez, tentait d'expliquer la nature par elle-même, sans recourir aux dieux, sans recourir à la mythologie. Il fallait par exemple expliquer le cycle de l'eau, c'est-à-dire le fait que l'eau s'évapore sur la mer lorsqu'elle est chauffée par le ciel, qu'elle donne naissance à des nuages, lesquels vont se fracasser sur les montagnes où ils se refroidissent, ce qui donne la pluie, laquelle coule à nouveau par les rivières vers la mer, et ça recommence. Donc le cycle de l'eau, si vous voulez. Et donc cette explication naturaliste, eh bien, elle est à la base du matérialisme, qui explique la nature par elle-même, sans recourir aux dieux, et en pointillé, tout au moins, en pointillé de la dialectique, c'est-à-dire d'une pensée qui, par des choses elles-mêmes, et explique leur changement de forme, par exemple, dans mon histoire d'eau, dans mon histoire aquatique, j'allais dire mon histoire d'eau, dans mon histoire d'eau au pluriel, E-A-U-X, eh bien, l'eau qui est d'abord liquide devient vapeur, puis se condense et redevient liquide, et ainsi de suite. Donc, il y a des changements de forme. Et cette matière se meut, elle se transforme en permanence, tout en restant elle-même. Voilà, c'est un peu, au fond, le socle à la fois du matérialisme et du rationalisme, qui donnera beaucoup plus tard l'idée attribuée à Lavoisier, au grand chimiste français Lavoisier, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, le mot important étant « transforme » avec un trait d'union entre « trans » et « forme », que tout change de forme et que tout reste soi tout en changeant de forme. Ça, c'est une grande idée qu'on retrouvera à travers toutes les expressions dialectiques qui se succéderont au cours de l'histoire de la philosophie et de la science. Dans l'Antiquité encore, on ne peut manquer de mentionner le nom d'Héraclite d'Éphèse. Héraclite d'Éphèse, de la ville d'Éphèse, donc pré-socratique philosophe, donc qui a vécu avant Socrate, et qui nous expliquait dans une superbe formule que le monde, eh bien, aucun des dieux ni des hommes ne l'a créé, mais il est un feu toujours semblable qui s'allume avec mesure et qui s'éteint avec mesure. Et il ajoutait que eh bien, la mer devient air, c'est-à-dire en réalité vapeur, et que cette vapeur elle-même devient eau, c'est-à-dire qu'elle devient liquide, et que tout ça est animé par un feu permanent, ce qu'on appellerait sans doute aujourd'hui l'énergie. Par conséquent, là aussi, eh bien, le monde s'explique par lui-même, par ses propres dynamiques, et notamment ce qui apparaît avec Héraclite, eh bien, à travers ses contradictions. L'humide devient sec, le sec devient humide, disait Héraclite. Et tout le monde connaît la fameuse formule selon laquelle on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. En réalité, eh bien, nous sommes et ne sommes pas, disait Héraclite, c'est-à-dire que nous devenons. D'un certain côté, effectivement, nous sommes, mais en même temps, nous passons. Et comme nous passons, il y a bien quelque chose qui meurt en nous. Et comme nous ne disparaissons pas, il y a bien quelque chose qui reste en nous. Et donc, nous sommes et ne sommes pas, nous devenons. Au fond, c'est le maître mot du matérialisme dialectique qui n'est pas, vous voyez, dans un abrupt « to be or not to be », être ou ne pas être, mais dans un plutôt conciliant entre les contraires, être et ne pas être, c'est-à-dire devenir. Alors cette philosophie antique est évidemment encore extrêmement intuitive, Elle n'a pas de socle scientifique encore solide. Ce sont les mathématiques qui vont se mettre en place en premier, l'astronomie, la physique commencera dans l'Antiquité, mais souvent, surtout sous la forme de statique, avec Archimède. Et c'est seulement vers la période moderne, notamment avec Galilée, avec la révolution copernicienne, comme on dit, que la question de la physique va être entraînée, en quelque sorte, dans le champ, petit à petit, de la dialectique matérialiste. Je n'approfondis pas davantage. Je veux dire ici simplement que, bien sûr, avec le marxisme, avec Marx et Engels, donc vers le milieu du XIXe siècle, eh bien, ce matérialisme dialectique qui est encore spontané, intuitif chez les Grecs, va prendre une forme beaucoup plus scientifique. Beaucoup plus scientifique d'abord parce que les sciences se sont développées puissamment, évidemment, depuis l'Antiquité. Non seulement les mathématiques et la physique dont je viens de parler, physique qui intègre désormais la dynamique et plus simplement la statique, mais avec la chimie, Lavoisier, hein, fin du XVIIIe siècle, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, avec le développement de la biologie aussi, qui à l'époque de Marx et d'Engels va prendre une forme scientifique, penser que c'est une période dans laquelle on va découvrir notamment l'organisation cellulaire du vivant, dans laquelle on va découvrir de façon méthodique et systématique avec Darwin l'évolution des espèces, et puis avec Marx et Engels eux-mêmes, l'apparition d'une science de l'histoire, d'une science matérialiste de l'histoire, qui étudie les choses à travers leurs contradictions. L'histoire des sociétés n'a été jusqu'ici, disent Marx et Engels, phrase célèbre hein, du manifeste du Parti communiste, que celle de la lutte des classes, c'est-à-dire de la contradiction qui anime les sociétés et les oblige sans cesse à bouger. C'est assez simple à comprendre. Si une chose quelconque, la société, mais une chose quelconque, était strictement identique à elle-même, si elle coïncidait à un moment donné avec sa propre essence, telle qu'en elle-même, enfin, l'éternité la change, comme aurait dit le poète français Mallarmé, elle ne bougerait plus, elle ne changerait plus. S'il y a du changement, et le changement est réel, hein, c'est une réalité, la matière est en mouvement, et il n'y a pas de mouvement sans matière, en sens inverse, eh bien, il faut bien qu'il y ait des contradictions, il faut bien que quelque part A ne coïncide pas avec lui-même. Alors, pour autant, il ne s'agit pas de sortir de la logique et de dire que les chats sont des chiens, que les choses sont à la fois elles-mêmes et leur contraire, d'une façon simple et bébête, si vous voulez. Il s'agit tout simplement de comprendre qu'une chose n'est elle-même qu'en étant en contradiction avec ce qu'elle n'est pas. Que A, grand A, hein, n'est grand A qu'en étant non A, en étant autre que A. Et cela, il faut le comprendre dynamiquement. Par exemple, Hegel, qui au XIXe siècle a été le premier à véritablement déployer la dialectique comme une logique, comme une grande logique, faisait remarquer qu'il n'y a pas d'un côté la peur, de l'autre le courage, mais que le courage est la capacité de surmonter la peur, que la vertu n'est pas tout à fait l'autre du vice, elle est la capacité de combattre et de triompher du vice. Et donc, si vous voulez, elle est négation de la négation. L'identité, le A égale A, est négation de la négation. Et à partir de là, on ne sort pas de la logique, on dynamise la logique, et inversement, on fait entrer la logique, le rationnel, dans l'étude du mouvement, dans l'étude du changement. Et on instaure donc un matérialisme dialectique. Comme Marx et Engels ont, en quelque sorte, couvert un champ qui jusqu'alors n'était pas couvert par les sciences, c'est-à-dire la science des sociétés, la science de l'histoire, et donc ici ont ouvert en grand le chantier des sciences de l'homme, eh bien leur matérialisme dialectique peut premièrement se nommer lui-même, hein, puisque Engels est l'inventeur du mot matérialisme dialectique dans sa brochure Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, et il est celui qui a exposé le premier d'une façon un peu développée le matérialisme dialectique dans l'anti-During et puis surtout dans Dialectique de la nature, un texte inédit du vivant d'Engels, qui était un ensemble de recherches, si vous voulez, qui a été publié beaucoup plus tard. Et donc, effectivement, le matérialisme dialectique, de spontané, d'immédiat, d'intuitif qu'il était au départ chez les Grecs, a pu prendre une forme scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il est une science. ça veut dire qu'il est le point de vue à partir duquel les sciences peuvent se systématiser, se globaliser, se lier les unes aux autres, comprendre comment on passe, disons, des phénomènes purement cosmiques et physiques aux phénomènes chimiques, des phénomènes chimiques aux phénomènes biologiques, des phénomènes biologiques aux phénomènes sociaux et historiques, aux phénomènes comportant aussi une part de subjectivité, et donc il y a aussi une dialectique de l'objectif et du subjectif qui est absolument indispensable pour les sciences psychologiques, par exemple. Donc ici, le matérialisme dialectique, c'est un peu le point de vue à partir duquel les sciences peuvent arriver à faire leur jonction, à couvrir en quelque sorte le champ de la conception du monde dont nous avons tous besoin. Tous les hommes ont besoin d'une conception du monde, parce qu'ils ont besoin de donner sens à ce qu'ils font. Il faut qu'ils inscrivent ce qu'ils font dans une certaine conception, qu'ils en soient conscients ou pas, de l'homme, de la vie, de la société, voire de la nature. La plupart du temps, ce sont les religions qui donnent une sorte de réponse globalisante aux questions qui se posent sur le sens. Eh bien, justement, le projet du matérialisme dialectique, c'est de pouvoir donner une vision rationnelle, fondée sur l'étude de la matière, de ses contradictions et du mouvement de ces contradictions à travers la négation de la négation, j'en ai parlé tout à l'heure, etc. Et donc à travers aussi des sauts qualitatifs, puisqu'évidemment la matière ne présente pas une continuité parfaite, il y a des stades, des phases, les scientifiques aujourd'hui diraient des transitions de phases, entre les différents secteurs, en quelque sorte, de l'existence matérielle. Alors voilà donc un petit peu pourquoi le matérialisme dialectique est au centre effectivement de cette pensée des Lumières que j'ai mis comme titre à mon livre, les Lumières communes, en faisant un clin d'œil aux Lumières, à la philosophie des Lumières bien sûr, et à la Commune de Paris et à la mise en commun. Le projet progressiste par excellence, c'est de mettre les Lumières en commun, c'est d'en faire le bien propre de toute l'humanité, effectivement. Et à partir de là, effectivement, le matérialisme dialectique est absolument indispensable pour développer ces lumières. Preuve à contrario, lorsque le matérialisme dialectique est abattu, combattu, censuré, démoli, comme c'est le cas tristement à notre époque où les jeunes philosophes ne l'apprennent plus dans les universités ou presque plus, où il est décrié de 100 000 façons, où il est déformé grossièrement par certains présentateurs, eh bien, les Lumières reculent. Elles n'ont plus leur socle rationnel, elles n'ont plus leur base, elles n'ont plus leur méthodologie, elles n'ont plus leur ontologie, c'est-à-dire leur façon de concevoir l'être, elles n'ont plus leur gnoséologie, leur façon de concevoir la connaissance. C'est ce que veulent dire ces mots barbares, ontologie ou gnoséologie, qui sont la traduction en grec des mots français études de l'être ou études de la connaissance. Privées de leur socle, les Lumières vacillent. Et on voit effectivement donc le cinéaste italien Pier Paolo Pasolini déclarer déjà vers la fin des années 70 que les lucioles s'éteignent. Il voyait déjà les lucioles s'éteindre parce qu'il voyait venir en réalité notre triste époque de contre-révolution et de fascisation par bien des aspects. Et donc si nous voulons combattre la fascisation, la contre-révolution et le nouvel obscurantisme qui se développe sous la forme des fanatismes les plus divers, nous devons absolument réétudier le matérialisme dialectique. C'est ce que nous nous proposons de faire effectivement dans les Lumières communes et dans cette série de vidéos. Un dernier mot. Si le matérialisme dialectique a été si décrié, c'est aussi parce que on a pris appui du côté des réactionnaires, des philosophes réactionnaires, sur le dogmatisme avec lequel il a été enseigné, notamment dans les années 50, et notamment en Union soviétique, à l'époque de Zhdanov, et notamment à travers toute une série de mésaventures de la science soviétique qui a été soumise pendant un certain temps à un dogmatisme assez détestable. Et effectivement, on prend appui sur cette dégénérescence, dans un certain sens, de l'usage du matérialisme dialectique, pour le décrier dans son ensemble, un petit peu comme si on rejetait totalement, je vais faire une simple comparaison si vous voulez, mais comme si on rejetait totalement l'Évangile sous prétexte qu'il y a eu l'Inquisition ou le dogmatisme religieux des XIIIe, XIVe et XVe siècles, par exemple. Alors, je voudrais ici nuancer d'abord ce que je viens de dire. Parce qu'il n'y a pas eu que ça. L'Union soviétique, y compris à cette époque-là, a été un grand pays scientifique. Si on le compare à la période du Tsar, il n'y a pas de comparaison même possible en réalité. Et le matérialisme dialectique a permis ici un développement extraordinaire de point de vue scientifique et de développement scientifique. Il suffit de citer les noms, par exemple, d'Alexandre Oparine dans le domaine de la biologie ou de Bakhtine dans le domaine de la linguistique, de Léontiev ou de Vygotsky dans le domaine de la psychologie. Donc, ne noircissons pas le tableau. Il y a eu une tendance au dogmatisme. Mais le contenu du matérialisme dialectique étant solide, étant fort, le dogmatisme n'a pas étouffé le matérialisme dialectique. Il a survécu largement, y compris à l'Union soviétique. Et il y a eu, notamment, dans les années 60-70, un fort développement de la philosophie soviétique qui ignore totalement, généralement, les philosophes occidentaux. Ici, un petit clin d'œil bibliographique au grand livre de Bernard Jeu, J-E-U, qui s'intitule « La philosophie soviétique et l'Occident ». La philosophie soviétique et l'Occident, donc, dans les années, a été publié dans les années 70. Et qui montrait bien qu'il y avait une vitalité considérable du matérialisme dialectique, avec des débats extrêmement nombreux et accrocheurs, de la part des philosophes soviétiques, en lien avec les scientifiques, puisqu'à l'URSS, on étudiait la philosophie en lien permanent avec non seulement les sciences sociales, le matérialisme historique, et donc les sciences du psychisme, mais aussi avec les mathématiques, la physique, la cosmologie, la chimie, la biologie, et ainsi de suite. En particulier, les philosophes soviétiques étaient très avancés sur la question de la classification dynamique des sciences. Je ne cite que le nom d'un philosophe soviétique qui s'appelait Boniface Kedrov, et qui était aussi un chimiste de formation. C'est pas un hasard. La chimie a toujours été un terrain propice depuis Lavoisier pour le matérialisme et pour le matérialisme dialectique en particulier. Alors je n'irai pas aujourd'hui beaucoup plus loin sur ces sujets, mais je fais simplement remarquer que si on regarde bien les choses, le matérialisme dialectique n'est que la forme la plus conséquente au fond du rationalisme. Si l'on veut être rationaliste, si l'on veut expliquer les choses de façon rationnelle, donc, ne pas faire de place à je ne sais quel paranormal, quel surnaturel ou quel mystérieux insondable, et si on veut donc que les choses puissent effectivement s'enchaîner les unes aux autres de la façon la plus souple qu'on veuille, mais en tout cas d'une façon rationnelle, on est bien amené à être matérialiste, c'est-à-dire à expliquer la nature sans addition étrangère, sans soustraction étrangère, par elle-même, comme faisait déjà Thalès et comme recommandait de faire Engels. Et l'on est bien obligé, si l'on veut étudier le mouvement de la matière par elle-même, de trouver dans la matière le carburant, en quelque sorte, du mouvement, du changement, du devenir. Et on est bien obligé, d'une certaine façon ou d'une autre, quelle que soit la façon dont on va concevoir cette notion, de concevoir les contradictions qui sont dans l'essence des choses et qui leur permettent de se mouvoir. C'est la définition de Lénine qui dit que la dialectique, et il entend par là la dialectique matérialiste, c'est l'étude de la contradiction dans l'essence même des choses, que ces choses soient la nature, que ces choses soient l'histoire, que ces choses soient la société, ou la personnalité humaine, par exemple, puisque les marxistes ont aussi donné beaucoup de travaux sur ces sujets qui concernent le psychisme, la conscience, la personnalité. Alors après, bien sûr, il faut discuter pour savoir comment on conçoit cette contradiction, comment on la développe, quel type de logique elle peut mettre en place, comment la dialectique de Marx se distingue en bien des points de la dialectique de Hegel, qui a été le grand logicien du XIXe siècle, mais qui lui était encore idéaliste. Bon, tout ça, ce sont d'autres débats que je ne traite pas, bien sûr, dans cette vidéo. Nous y reviendrons. Je vous donne rendez-vous donc aux prochaines vidéos qui seront faites à partir de ce livre donc que je vous recommande, Lumière commune, traité de philosophie générale à la lumière du matérialisme dialectique.
L'hiver tombe sur nos contrées. Et le soleil est bas, les arbres ont maigri. On voit apparaître au-dessus des fenêtres Une marionnette rouge à barbe d'ancêtre. Tous les gamins d'Occident, s'ils ont été gentils, auront plein de cadeaux. Mais ce personnage qui paraît tendre, où est-il de janvier à décembre? Toute l'année, il fait fabriquer ses cadeaux par des ouvriers de 10 ans en entrepôt qui, pour faire ce qui finira sous le sapin, n'iront jamais à l'école et ne liront rien.
Hey! Si tu vois le Père Noël, mets-lui les coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calpottes. Fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines et préviens ses escrocs qu'il est bon pour la gêne.
Pour s'accaparer les matières premières, le Père Noël entretient la corruption et la misère dans ses anciennes colonies où il a toujours les meilleurs prix.
Le pétrole qui fait ce qu'il plastifie finit parfois dans la mer sans qu'on s'en méfie. Et quand il sert à livrer ses joujoux par milliers, il dérègle le climat du globe.
On dit qu'il passe par tous les toits. Dommage qu'en Burundi, il n'y ait pas de cheminée.
Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calpottes. Fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calpottes. Fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN.
Père Noël distribue les boîtes de chocolat, les tranches de saumon, les blocs de foie gras. De perpète, les portes des porcs à perpète, qui rient comme des morts et appelle ça les fêtes. En novembre, ils vendent une figurine de G.I. Des tanks et des canons pour la marmaille.
Les parents qui triment auront-ils la maille?
Voici des sombres, c'est parti. Les Barbies descendent en rappel dans les caddies. Blondes squelettiques ne pensant qu'aux 4x4 de Ken. Et ces jeux vidéo qui tombent de la haute donnent-ils aux ados le sens de la lutte?
Génération vertueuse en virtuel, qu'aura-t-elle fait de bien dans le monde réel?
Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calpottes. Fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calpottes. Fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN.
On ramasse des cadavres chaque matin en Inde, ça n'empêche pas le Père Noël de gaver ses dindes, d'arroser les âmes pour que l'ivresse s'oublie. Que plus de 5 milliards d'hommes n'ont pas ce mode de vie.
Que les brevets des médicaments valent de l'or.
Plus de valeur en tout cas que des millions de morts. Si le pervers Noël et sa supercherie vénale qui te fait supermarché dans les hypermarchés. Je le croyais polyglotte, est-il complètement bête pour ne pas pouvoir répondre à toutes les lettres et les requêtes? Je croirais bien plutôt qu'il préfère les chiffres aux lettres et le verbe avoir aux verbettes et les riches et les prêtres. Homme d'affaires irréprochable, cherche personnage impeccable avec sentiment charitable pour mascarade en guise de fable.
Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calpottes. Fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calpottes. Fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël,
chale. Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Je pense que ce texte de loi présenté par le député Fauvergue et la députée Toureau, les députés de La République En Marche, va gêner un certain nombre de personnes qui n'aiment pas la police.
C'est eux, c'est eux, je te dis que c'est eux. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on fout, merde. Défendons-nous pas. Défendons la météo.
facile.
T'as entendu parler de la loi sécurité globale ?
Vu qu'on parlait que de ça ces dernières semaines, j'aurais eu du mal à passer à côté. On aurait dit que les journalistes ont réalisé avec cette loi qu'ils vivaient dans un état autoritaire.
Tout ça parce que pour une fois, ils étaient directement concernés. Bon, on s'écarte déjà du sujet là, non ?
Ouais, t'as raison. Il y a beaucoup de choses à dire, on fera la critique du journalisme bourgeois une autre fois. Pendant cette émission, on parlera un peu de cette loi. On se demandera à quoi elle sert cette loi, qui elle sert et qui elle vise. On verra comment la logique sécuritaire se met en place dès le plus jeune âge, à l'école.
Vu qu'on n'y connaît pas grand-chose en sécurité, on a demandé à des gens d'éclairer notre lanterne. Vous entendrez par ordre d'apparition Bastien Lequérec,
membre de la Quadrature du Net,
Mathieu Rigouste,
auteur notamment de La Domination Policière.
Bon, dis-moi, est-ce qu'on s'y remet à ce projet de loi, surprotéger ceux qui nous protègent ?
Ah oui, carrément. Par contre, moi, je dirais juste protéger ceux qui nous protègent. Tu sais, ça passe mieux, c'est plus
ouais,
léger.
Protéger ceux qui nous protègent, ouais, t'as raison. Bon, pour l'article 1, l'article 1er, je te propose que les polices municipales qui comptent plus de 20 agents voient leurs prérogatives agrandies. Hein. À titre expérimental, évidemment, faut pas trop affoler la population. Je dirais 2 ans,
deux ans. Allons-y pour 3.
Ouais, 3 ans. Et 3 ans, ça passe. Les agents ils vont pouvoir constater de nouvelles infractions qui ne nécessitent pas d'actes d'enquête, hein. Occupation de hall d'immeuble, usage de stupéfiants, vente à la sauvette, conduite sans permis,
vandalisme,
c'est bien.
Et si on ajoutait aussi que les policiers municipaux, ils pourront saisir certains objets hein, qui sont utilisés pour commettre des délits, ou immobiliser et mettre en fourrière directement la voiture.
Ah oui, ok.
Bon, passons à l'article 8. On pourrait promouvoir, en quelque sorte, les agents de sécurité privée au niveau de la police. Bon, ils seront habilités à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse de l'auteur présumé de l'infraction.
Et on n'a qu'à dire que si ce dernier refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier son identité, l'agent qui dresse un procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie. Et dans la foulée, hein, il peut lui présenter sur le champ la personne concernée ou la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée.
Nickel.
Bon, dans l'article 21, on va élargir l'usage des images captées par les caméras piétons des forces de l'ordre.
C'est autorisé depuis 2016.
Ouais, ces images pourront désormais être diffusées pour l'information du public, hein, guillemets avec les doigts. Et les agents portant la caméra pourront désormais visualiser les images, hein, ce qui n'était pas le cas avant.
Mais ouais, mais comme ça sera beaucoup plus facile de se mettre d'accord sur une version des faits.
Exact. Ces images pourront désormais être visualisées en temps réel au poste de commandement.
Ouais, bah ça complète carrément le fait que les agents sont déjà habilités à utiliser les logiciels de reconnaissance faciale.
Depuis 2012.
Ouais, tout à fait. Qui permettent d'identifier une personne parmi les photos déjà enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, le TAJ.
C'est parfait. Donc dans l'article 22... On va autoriser des drones et des caméras installées sur des hélicoptères hein, pour la surveillance lors des manifestations et rassemblements sur la voie publique. Pour,
prévention du terrorisme.
Prévention du terrorisme, pour protéger les bâtiments publics, hein, pour constater les infractions. Bah bref, on va dire, on pourra utiliser ça tout le temps et partout.
Mmh. Et en plus, on pourra aussi utiliser la reconnaissance faciale.
Exactement.
Bon, pour l'article 23, on n'a qu'à dire que les personnes condamnées à la suite d'infractions commises sur une personne dépositaire de l'autorité publique sont exclus du crédit de réduction de peine.
Ah oui, donc, oui. Personne dépositaire de l'autorité publique, c'est les gens qui sont dans notre équipe, quoi. Les élus, les militaires, agents de police, gendarmerie, bon, les pompiers.
Mm-hmm. Ça veut dire qu'on peut leur coller des peines bien plus lourdes.
Bien entendu. Bon, alors, l'article 24, il va interdire la diffusion d'images de représentants des forces de l'ordre dans l'intention de porter atteinte à leur intégrité physique et psychique. Dans l'idée, le policier filmé va lui-même juger de l'intention de la personne qu'il filme et procéder à l'interpellation. Peut-être que le juge va le contredire, mais en attendant, le policier, il aura eu la possibilité d'effectuer une interpellation, c'est déjà ça de prix.
Mmh. Ouais, et puis ça permettra, dans les faits, d'arrêter toute personne qui filme un policier, de lui prendre son téléphone, et avec les nouveaux outils de la police, de retirer les images qui font tâche pendant la garde à vue.
Ça, c'est bien. on devait pas faire un article pour l'histoire des armes de service, là ?
Ah oui, si. Ah, ça, c'est important. Bon, on en fait un petit 25, hein, article 25. On autorise les forces de l'ordre à se promener avec leurs armes de service.
Ah, mais quand elles ne sont pas en service.
Bah oui. Évidemment.
Les deux co-rapporteurs de ce texte sont M. Fauvergue, ancien membre du RED, et Mme Toureau, députée LREM. Et en commission, on a bien entendu à plusieurs reprises la co-rapporteuse Madame Toureau dire « La police veut ce texte tel qu'il est, nous rejetterons les amendements qui seront proposés ». Donc on a vraiment un texte qui est écrit par la police, mais pour la police, pour protéger la police, que ce soit l'article 24, mais finalement que ce soit l'ensemble des autres dispositions de ce texte. À la quadrature du net, on s'est intéressé sur les caméras piétons, les drones, et l'interdiction de diffuser des images de policiers, mais finalement c'est l'ensemble de ce texte qui est dans le même esprit, l'augmentation des pouvoirs des policiers municipaux, l'augmentation des pouvoirs de la sécurité privée, le port d'armes généralisé pour les policiers en dehors de leurs heures de service, la suppression des possibilités de réduction de peine en cas de violence contre les policiers, c'est vraiment une caste qui se protège. On n'a vraiment que les syndicats les plus extrêmes, ceux qui fricotent avec l'extrême droite, qui approuvent ce texte. En tout cas, on a eu un travail de lobbying à la fois par les syndicats, mais également par le ministre. La presse révélait cette semaine que M. Darmanin avait demandé aux syndicats de police de médiatiquement défendre ce texte pour finalement défendre les intérêts des policiers contre la population.
Du coup, là, il y a en général la sociologie un peu académique sur la police, elle identifie deux dynamiques. Une dynamique qui est dite d'insularité, en fait, que l'institution policière a son agentivité, à sa capacité d'être acteur elle-même et qu'elle revendique le plus possible son autonomie, à pouvoir produire ses propres règles et étendre son pouvoir, son cadre d'action, etc. Et du coup, de l'autre côté, il y aurait la question de l'instrumentalité, c'est-à-dire le fait que la police est le fruit de hiérarchie de pouvoir. Et du coup, elle ne sait pas non plus ce qu'est la forme sécuritaire du capitalisme. Elle accentue le fait que il y a déjà en permanence une sorte d'instrumentalisation de l'insularité. C'est-à-dire dans la police, il y a eu des formes d'autonomie, des unités de police, par exemple, qui décident elles-mêmes ce qu'elles font, ce qu'elles veulent, des préfets qui ont des marges de manœuvre. Mais que tout ça est dans un cadre d'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'il y a au-dessus de tout ça, reste un gouvernement qui a la main sur les manettes et qui maîtrise ce processus-là. Et on le voit bien avec les questions des bacs. Et des unités les plus autonomisées, c'est des politiques rationnelles et conscientes d'elles-mêmes d'instrumentalisation d'une férocité la plus autonomisée. Mais le jour où un préfet ou un ministre de l'Intérieur décide d'en finir avec quel type d'unité, avec quel type de pratique, etc., ça se fait très rapidement. N'est pas dans l'ordre de dérive. Il semblerait que le processus de restructuration sécuritaire développe de plus en plus ces formes-là, des formes autonomisées de contrôle, de surveillance et de répression, mais qui sont complètement instrumentalisées. C'est ça qui se trame aussi depuis une quinzaine d'années, c'est l'aménagement du droit de la sécurité privée, parce que du coup, il y a une partie du capital qui voudrait une ouverture complète. Et l'État, le bloc de pouvoir, lui, a besoin de s'assurer aussi que ça tient debout, quoi. Et du coup, il y a une espèce de négociation comme ça entre de séparation des secteurs qui peuvent être ouverts au privé et d'autres qui faudraient conserver, comme ce serait la souveraineté de l'État, etc. Tous les domaines qu'envisage cette loi, à chaque fois, c'est des marchés. C'est-à-dire l'usage des drones policiers, c'est le rendre. Alors, c'est à la fois, à chaque fois, valider des usages qui sont déjà en cours et donc les normaliser. Et leur donner un cadre, mais du coup un cadre qui va permettre de nouvelles expérimentations, de nouveaux usages, et du coup développer encore d'autant plus ces marchés-là et les sous-marchés qui vont aller avec. Le complexe militaro-industriel français tente de se restructurer autour de ces questions-là. Du coup, c'est des enjeux fondamentaux pour eux qu'il puisse y avoir le développement d'usages de toutes ces technologies-là. Ça vient aussi réagir aux dernières séquences cette année, mais aussi des dernières années de réorganisation, de mobilisation différente des luttes des quartiers, des immigrations et de nouvelles formes de convergence ou d'alliance entre les luttes des quartiers, des immigrations et d'autres types de luttes comme les luttes antifascistes, les luttes écologiques et le reste du mouvement social, une déstabilisation du rapport de force. Là, il y a effectivement dans cette loi-là une instrumentalisation du contexte. Toutes les forces qui ont des intérêts à tirer de cette situation-là, on pensait que, ayant plus de rapport de force dans la rue, et qu'entre l'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence antiterroriste, toutes ces choses-là, qu'il y avait moyen de passer leurs rêves les plus fous, et qui font partie de la panoplie de ce que l'extrême droite brandissait un petit peu comme une manière de se distinguer, pareil pendant ces 15 dernières années, et là en fait tout est passé d'un coup, quoi. C'est un gros paquet de lois de restructuration sécuritaire qui vont permettre une expansion du pouvoir policier et notamment de ces dimensions technologiques assez ahurissantes.
On est vraiment dans un gouvernement de droite qui s'assume être de droite, mais qui ne prend plus aucune pincette pour faire passer ces lois. La proposition de loi sécurité globale, elle est d'initiative parlementaire. En revanche, on voit très bien dans les débats que M. Darmanin se réapproprie totalement ce texte. Les co-rapporteurs savent déjà comment ce texte sera appliqué par le gouvernement, donc on voit très bien qu'il y a un dialogue permanent entre la majorité présidentielle qui est censée avoir écrit cette loi et le gouvernement qui est censé ne pas être à l'origine. Là, plus personne ne se cache. Pendant les débats parlementaires, c'était une absence totale de débat. C'est vraiment un texte qui a été enregistré par l'Assemblée nationale parce que le gouvernement le voulait tel quel, le gouvernement et la police.
Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta sale queue qu'on pourrait clouer sur ton cercueil, ta sale gueule de laquelle on arracherait un œil. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais.
Les personnes qui sont dans le viseur de ce texte, ce sont les citoyens et les citoyennes. C'est vraiment l'ensemble de la population. C'est pas une manière de parler que de dire que ce texte organise une surveillance généralisée. La technopolice, en tout cas, nous, la définition qu'on en donne à la quadrature, c'est une surveillance dans les villes accentuée grâce aux nouvelles technologies, aux nouvelles possibilités technologiques. À partir des années 2010, on a eu, au niveau des villes initialement, une volonté de surveiller encore plus. En 2015, avec la loi renseignement, on parlait déjà de surveillance généralisée parce qu'on légalisait des pratiques jusqu'à présent illégales de surveillance par les services de renseignement. Ici, c'est le même principe. On légalise des manières de faire qui existent déjà mais qui sont illégales, mais cette fois-ci, pas par les services de renseignement, mais par la police, qui se voit dans la rue, lors de contrôles, etc. Ce texte, il vise à augmenter le nombre de sources de surveillance, que ça soit par drone, que ça soit par caméra piéton, que ça soit en empêchant ces garde-fous citoyens que sont filmés la police lorsqu'elle fait son travail pour documenter les dérives. C'est vraiment avoir une source de vidéo unidirectionnelle du gouvernement et la police vers les citoyens et citoyennes pour continuer à mettre la pression chacun et chacune. Évidemment, ça va avoir des effets de bord dramatiques sur les personnes racisées, sur les minorités, et c'est vraiment l'objectif de ce texte. Parce que, avec ce texte et avec la légalisation de sources vidéo supplémentaires, c'est tout comme on le fait aujourd'hui, illégalement certes, mais on le fait aujourd'hui avec les caméras de vidéosurveillance, c'est la porte ouverte à l'analyse algorithmique des flux vidéo et donc une surveillance constante de l'espace public. Il ne faut pas oublier que dès qu'on parle de surveillance, on a une porosité très importante entre les différents fichiers de police ou outils de surveillance. Le fichetage, le traitement des antécédents judiciaires est assez intéressant parce que c'est un fichier qui est censé être juste une base de données qui comporte des fiches avec des photos. Sur ces photos, on peut faire de la reconnaissance faciale. C'est explicitement prévu par les textes réglementaires, même si nous, à la Quadrature du Net, on a un contentieux en cours devant le Conseil d'État sur la légalité de la reconnaissance faciale permise dans le TAJ. En tout état de cause, pour l'instant, tant que le Conseil d'État n'a pas déclaré illégal la reconnaissance faciale dans le TAJ, les policiers peuvent utiliser cette base de données pour faire de la reconnaissance faciale. Il faut donc alimenter cette base de données. Et pour l'alimenter, c'est là où c'est totalement open bar. À partir du moment où on a une captation vidéo par la police, si la police estime qu'on est en présence d'un délit ou d'une infraction, elle peut utiliser les images pour alimenter ce fichiertage et à partir de là, faire de la reconnaissance faciale sur les images qui ont été alimentées. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une fiche dans le TAJ avec nom, prénom, adresse, toutes les données sur l'état civil. Il suffit qu'on ait une photo, et à partir de cette photo, on va pouvoir faire de la reconnaissance faciale pour regarder si la personne avec la photo ne serait pas présente dans une autre fiche, et faire le lien entre une fiche déjà existante dans ce fichier et un fait qui vient de se produire et sur lequel on veut enquêter. On a une porosité avec d'autres fichiers de police, notamment le fichier TES, titre électronique sécurisé. Et donc, finalement, on a une très grande possibilité pour la police, à partir du moment où elle a ses sources d'informations, de pouvoir alimenter ses fichiers de police. On a également des porosités entre différents fichiers de police. On peut avoir des fichiers de police qui ne sont pas prévus pour faire de la surveillance et qui vont, par la possibilité de transférer, notamment dans le TAJ, se transformer en fichier de police de surveillance. Un exemple très concret, c'est l'application des gendarmes qui s'appelle GenNote. GenNote, c'est une application qui existe depuis déjà quelques années, mais qui a été légalisée. Encore une fois, on a une pratique de l'administration et de la police qui a été légalisée a posteriori. Le fichier GenNote, c'est donc une application sur mobile à disposition des gendarmes pour faire des prises de notes au moment des interventions. Et donc, les gendarmes peuvent créer des fiches qui vont contenir toutes les questions de l'état civil, toutes les informations autour des faits qui sont en train de se dérouler, si c'est un contrôle de police, si c'est une intervention en flagrance, etc. Et on a également un champ libre qui ici peut contenir absolument toutes les informations possibles et imaginables, également des informations qui ne sont absolument pas nécessaires mais pourtant très problématiques, c'est toute la question des informations sensibles. Donc dans ce champ libre de cette application, on va pouvoir avoir des informations autour des croyances religieuses, philosophiques, politiques, l'orientation sexuelle des personnes. Et ce fichier GenNote, les fiches qui sont créées dans cette application, vont pouvoir être transférées vers un nombre illimité d'autres fichiers de police. L'encadrement réglementaire de GenNote ne limite absolument pas à ce fichier de rédaction de PV la possibilité de transférer les fiches. Et on peut notamment transférer tout ce qui se passe, tout ce qui est enregistré dans le fichier GenNote, dans le fichier TAJ. Ce qui est intéressant avec le fichier GenNote, c'est que le fichier GenNote interdit explicitement la reconnaissance faciale. En revanche, en n'empêchant pas le transfert des données, y compris la photo, des personnes vers le fichier TAJ, bah finalement, on peut avoir légalement une reconnaissance faciale à partir de photos prises dans l'application GenNote qui elle-même interdisait la reconnaissance faciale. Dès qu'un fichier finalement va poser un minimum de garde-fous, ces garde-fous pourront être contournés en transférant dans un autre fichier qui lui est open bar, et notamment le fichier TAJ. Avec le premier confinement, on s'est aperçu que grâce à la vidéosurveillance, on avait pu verbaliser des personnes qui n'auraient pas respecté le confinement sans les avoir contrôlées. Et pas n'importe quelle personne, les personnes dites « connues des services de police », avec beaucoup de guillemets et de flou autour de cette notion. On ne sait pas si ça a été grâce à de la reconnaissance faciale et des comparaisons dans le fichier TAJ, mais on a des personnes qui se sont fait verbaliser, qui étaient devant une caméra de vidéosurveillance. On a constaté qu'ils étaient dans la rue, on n'a pas regardé à savoir s'ils avaient une attestation et s'ils pouvaient sortir dans la rue. On les a quand même verbalisés, et ça grâce à la vidéosurveillance. La 5G n'est pas une condition de massification de la technopolice, en revanche, c'est un facteur d'accélération et de réduction de son coût. Pourquoi ? Parce que la 5G, elle permet une connectivité plus stable, plus fiable, à moindre coût. Y a un exemple qui est très intéressant, c'est un exemple dans le sud de la France d'une surveillance dans des trams. C'est une société qui s'appelle Touhi, qui voulait expérimenter, et qui l'a fait, une vidéo surveillance automatisée dans des trams, je ne sais plus dans quelle ville c'était. Donc on avait les caméras de vidéosurveillance des trams qui diffusaient en temps réel un serveur à l'extérieur du tram les images pour ensuite les faire analyser à un algorithme. Donc cette analyse algorithmique, elle ne se faisait pas sur une machine qui était dans le tram, mais elle se faisait à l'extérieur sur un gros serveur centralisé. Cette expérimentation a été abandonnée parce que le flux vidéo n'était pas suffisamment stable pour permettre une analyse. C'est-à-dire que comme le tram bougeait, comme on avait une connectivité 4G qui était certes stable, mais pas assez pour ce genre d'usage, la seule solution, si on voulait faire de l'analyse algorithmique en temps réel dans les trams, c'était de mettre une machine d'analyse dans chaque tram. Et donc le coût était beaucoup plus important. On multipliait du coup le nombre de machines qui permettaient de faire cette analyse algorithmique. On multipliait l'entretien parce qu'il fallait entretenir autant de machines qu'il y a de trams. Alors que ce que voulait faire 2i, c'était centraliser dans une seule grosse machine l'arrivée de ces flux pour les analyser tous en même temps. Avec la 5G, on peut tout à fait penser, c'est dans le domaine du possible, que grâce à la stabilisation de ce genre de transfert d'images, on pourra avoir ce genre de projet sécuritaire qui sera possible dans des trams à l'avenir. Également dans des villes qui n'auraient pas d'infrastructures réseau très importantes et qui voudraient s'équiper de caméras de vidéosurveillance, notamment des villages, on a l'obligation du coup pour ces villages de tirer des câbles de fibre optique. C'est-à-dire que quand un village qui n'a que de la DSL en son sein veut s'équiper de caméras haute définition et veut un transfert en temps réel de ces images vers un centre de surveillance urbain, ce qu'on appelle un CSU, pour ensuite éventuellement faire une analyse en temps réel de ces images, avec de la DSL, on ne peut pas. C'est pas assez, c'est pas suffisamment performant. Donc, les villes sont obligées de tirer un réseau de fibre optique, qui ne leur servira qu'à ça. Tirer un réseau de fibre optique, c'est extrêmement coûteux. Non seulement il faut installer les caméras, mais du coup, il faut faire des travaux très importants de voirie pour casser des trottoirs, faire tirer les câbles ou utiliser des gaines déjà existantes, faire des études, etc. Avec la 5G, on pose une antenne au niveau du village, éventuellement 2-3 parce que la couverture, la zone de couverture en 5G est un peu plus faible qu'en 4G. Mais du coup, on va avoir non pas à tirer autant de fibres optiques qu'il y a de caméras, mais seulement quelques fibres optiques pour les réseaux 5G, voire utiliser les réseaux 5G qui auront été déployés par les opérateurs. Et au niveau des caméras de vidéosurveillance, on n'a plus du tout besoin de tirer de la fibre optique. On met une antenne 5G pour communiquer avec les réseaux radio de l'opérateur, et on a une réduction drastique des coûts. Le problème, c'est que dans une démocratie, la surveillance doit avoir un minimum de coûts, parce que lorsque le coût se réduit, les administrations, l'État est inévitablement incité à surveiller d'autant plus. Le problème de la vidéosurveillance, indépendamment de si elle est automatisée ou pas, c'est que l'État, aujourd'hui, subventionne massivement les villes qui voudraient s'en équiper. On a un fonds de l'État qui permet de subventionner jusqu'à 80% des coûts d'une ville qui voudrait s'équiper de vidéosurveillance. Ça réduit le coût de la vidéosurveillance. Les villes sont incitées à mettre de la vidéosurveillance parce qu'elles ne paieront finalement que 20% de la facture à la fin. Le fait de réduire les coûts, et avec les drones, c'est un exemple parfait, je trouve, va inciter les administrations, la police, à déployer ce genre de technologie parce qu'elles pourront le faire sans avoir cette barrière budgétaire qui est aujourd'hui de plus en plus importante pour les habitants et les habitantes. Et donc, c'est vraiment un énorme problème avec l'augmentation des capacités technologiques, c'est qu'on réduit le coût de ces technologies et on réduit l'accessibilité à la surveillance par les villes ou par la police. Un exemple intéressant, c'est celui d'une expérimentation qui a été déclarée illégale par le tribunal administratif de Marseille, qui visait à mettre dans deux lycées de la région sud, la région PACA, des portiques de reconnaissance faciale. L'idée, c'était de mettre des portiques à l'entrée de lycées pour gérer l'entrée des lycéens et des lycéennes. Et c'était vraiment une volonté de la part de la région de généraliser cette technologie, mais ici pour surveiller carrément des enfants, des mineurs, des lycéens et des lycéennes. Un autre dossier qui est en cours, c'est celui de la vidéosurveillance à Marseille. À partir de 2013, la ville de Marseille a commencé à se dire que grâce à l'intelligence artificielle, elle pourrait faire une analyse automatique de ces flux de vidéosurveillance, parce que la ville est équipée entre 1000 et 1500 caméras de vidéosurveillance, et évidemment c'est impossible de mettre une personne derrière chaque caméra. À partir de 2015, elle a commencé à passer les marchés publics nécessaires, et en 2018, elle les a définitivement passés. Cette surveillance algorithmique, elle a commencé à être mise en œuvre effectivement sur l'espace public à partir de fin 2019, début 2020. La vidéosurveillance dite automatisée, c'est-à-dire avec des flux vidéo qui sont analysés algorithmiquement, n'est pas acceptable parce que ici on n'est pas en matière de reconnaissance faciale. Ça va être des technologies de détection de comportements anormaux avec énormément de flou et d'enjeux politiques autour de la définition de cette notion. Mais c'est vraiment une surveillance omniprésente de la population marseillaise à travers les caméras de vidéosurveillance qui sont partout dans la ville. Sinon, je pourrais vous citer plein d'autres projets. Dans le sud, il y en a beaucoup, mais également à Saint-Étienne, où la ville voulait mettre des micros pour écouter ce qui se passait dans la rue, pour détecter des troubles à l'ordre public. Mais l'effet de bord, c'était d'écouter toutes les conversations qui se passaient dans la rue. L'idée, c'était de faire une détection algorithmique sonore d'un trouble à l'ordre public, où un logiciel, un algorithme, serait capable de détecter un trouble à l'ordre public pour savoir s'il faut envoyer ou non une personne sur place. Là, c'est vraiment une technologie comme source d'enfermement et de surveillance. Mais une fois que ce projet a été documenté, la mairie a finalement fait machine arrière. La CNIL est venue mettre un terme définitif en disant « de toute façon, c'est illégal », mais déjà sur le plan éthique, le fait de documenter cette surveillance faisait que les citoyens et citoyennes, les personnes concernées, refusaient en bloc ce genre de dispositif. Mais aujourd'hui, malheureusement, on en a partout en France, et ça a été plus ou moins documenté. Il y en a plein qu'on n'a pas pu documenter. Il y en a qui sont acceptés, il y en a sur lesquels on n'a pas l'énergie ni les personnes pour mettre la pression politique. On a notamment des expérimentations à Strasbourg, on a des expérimentations dans des trams dans le sud de la France, on a des choses qui se passent dans des petits villages. Donc c'est vraiment un phénomène qui concerne beaucoup, beaucoup de villes, peu importe leur taille, et la solution viendra par une prise de conscience des personnes qui sont concernées par cette surveillance.
Jouer au bout. Police, milice organisée.
s'inscrit quand même dans une continuité, dans une séquence qui est elle plus longue, qui est le post 68, en fait, qui est le moi j'appelle le capitalisme sécuritaire, enfin confronté à la montée en puissance de mouvements anticolonialistes, de mouvements révolutionnaires, des luttes, des révoltes un peu partout dans le monde. Les classes dominantes ont, depuis un capitalisme de la guerre permanente, ont créé un capitalisme de la guerre intérieure, qu'ils ont appelé de la sécurité, et où on voit tous les industriels et le grand capital lié à l'économie de la guerre permanente qui s'était mise en place à travers les deux guerres mondiales, investir dans ces domaines de la guerre intérieure. On voit avancer sans cesse par les gouvernements de toutes tendances, et justement d'autant mieux quand il y a des alternances de gauche et de droite, des lois qui à la fois avancent, enfin permettent d'étendre et d'amplifier le pouvoir policier, de l'hybrider avec des formes militaires, tout en générant des marchés. En fait, la logique économique qu'il y a derrière ça, c'est de prévoir le risque de la crise et du coup de l'empêcher, et donc de prévoir tout ce qui, enfin dans la logique sécuritaire, de prévoir tout ce qui pourrait amener la crise, donc amener la révolte, amener le manque de stock, amener une prise de conscience sur un truc, amener la perte d'un marché, etc. Il y a une nécessité d'une expansion répressive et en termes de contrôle pour la classe dominante pour tenir. Il y a une logique qui est la logique économique, c'est-à-dire que tous ces domaines sont des marchés et donc il y a des choses qui on n'a pas d'autres enjeux que de faire exister un nouveau marché, des nouvelles marchandises. Le fait est que dans les grandes puissances impérialistes occidentales, ces marchés-là sont devenus principaux pour assumer la restructuration du capital, la baisse tendancielle des taux de profit. Ça a été un des choix des puissances impérialistes occidentales d'investir à fond, pas que, hein, mais notamment dans les domaines du militaire et de la guerre intérieure, c'est-à-dire de la sécurité. Il y a une collaboration entre le capital industriel sécuritaire et l'institution policière, notamment pour expérimenter, créer de nouveaux usages de technologies et fabriquer des nouveaux marchés. Et il y a énormément de choses qui sont pas, ne finissent pas par être normalisées, ne finissent pas par avoir les usages qui étaient prévus. Et puis d'autres qui ont des usages, une fois qu'elles sont saisies par une institution, il va y avoir plein de nouveaux usages qui vont apparaître. Je sais pas si on reprend l'histoire de Flashball. Bon, ben voilà, maintenant on a des lanceurs 40, on a des multi-coups, il y a différentes marques qui ont réussi à prendre différents secteurs d'un marché étatique et international. Enfin bon, voilà, et plus la police s'en sert et plus elle fabrique des nouveaux usages. Le capital industriel, lui, appuie de toutes ses forces pour des privatisations les plus avancées, pour l'ouverture des marchés privés de la sécurité dans tous les domaines. Etc. Quand de l'autre côté, bah, il y a quand même dans le bloc de pouvoir la nécessité, et d'ailleurs pour la protection des intérêts de la bourgeoisie, d'un maintien de l'ordre social. Il y a un travail intense pour créer un sujet sécuritaire qui se révolte pas. Et donc on connaît autour des stratégies d'utilisation de la peur ou de choses comme ça, et puis de tous les dispositifs possibles qui vont pouvoir aider à faire sous-traiter le contrôle. Et c'est une des logiques internes de la contre-insurrection, des doctrines de contre-insurrection. Il y a une recherche effrénée du point de vue du système sécuritaire de produire du consentement et de produire des technologies et des marchés et des marchandises liées à la fabrication du consentement. Ça fonctionne d'autant mieux que en face, on n'a pas réussi à construire des formes de formation collective, de pensée critique, d'éducation populaire révolutionnaire, etc. Plus on a été dépossédé des moyens d'une enquête critique, de partage de connaissances critiques et d'intelligence collective, plus on est dépossédé face aux idéologies dominantes. D'une certaine manière, la logique sécuritaire, elle fonctionne aussi par le fait qu'on s'autocensure, ou en tout cas par le fait qu'on croit qu'elle est capable de ce qu'elle prétend, c'est-à-dire d'un contrôle total, absolu, et du coup qui nous empêcherait d'agir ou de nous organiser, ou qui nous amènerait à chercher des formes qui en fait nous empêchent de nous nous défendre, de contre-attaquer, de nous organiser, etc. Et du coup, c'est se dire que, en fait, c'est aussi problématique de sous-estimer l'adversaire, de sous-estimer le système et sa puissance, mais que de le surestimer aussi, quoi. Et le seul beau moyen qu'on a de ni le surestimer ni de le sous-estimer, c'est de se donner des moyens d'enquête collective, critique, et qui permettent de penser ensemble et de partager ces connaissances-là le plus régulièrement possible. Dans la boîte à outils du prince, il y a régulièrement cette possibilité de désigner le bouc émissaire et en général un impur, enfin l'alliance entre un impur et un subversif, entre l'étranger et le révolutionnaire, un personnage à double visage dont la purge permettrait de nettoyer la société de sa crise, de son mal, et permettrait de souder la population autour du chef. Ça permet de faire avancer petit à petit, d'autant plus le pouvoir sécuritaire, ses dimensions policières, et oui, de constituer aussi un sujet non concerné d'une certaine manière, ou un sujet sécurisé, un sujet protégé qui se sent pas visé, parce qu'en fait c'est pas donné de soi, enfin c'est quelque chose qui est construit, le fait de pas se sentir concerné par l'oppression quotidienne policière dans les quartiers, de pas se sentir concerné par la condition des prisonniers, de pas se sentir concerné par celle des migrants, etc. Et ça a été une construction en fait, et par des institutions comme l'école, la famille, etc. C'était donc aussi une réaction au fait que les rapports de force sont déstabilisés par le travail de convergence, le travail d'alliance, et puis par les mobilisations des dernières années et du printemps. C'est une réaction à ça qui se passe avec l'islamophobie d'État en France actuellement, se rentre notamment dans ce cadre-là. Mais pas seulement. Du coup, ça s'inscrit aussi dans un répertoire idéologique, de celui de la culture occidentale, européenne, et où depuis les croisades, la figure du musulman est régulièrement construite et utilisée pour justifier des politiques intérieures, des politiques extérieures, militaires ou répressives, etc. Et du coup, il y a eu un intense travail à travers les siècles de structuration d'un inconscient raciste à plusieurs niveaux, et où la figure du musulman, de l'islam, est déjà bien préparée, quoi. Et après, je pense qu'il y a une autre raison, et qui est tout aussi fondamentale, et c'est le fait que la société française, comme la plupart des puissances impérialistes, sont organisés autour d'une colonialité interne. C'est-à-dire, il y a à toutes les époques ce capitalisme et cette hiérarchisation sociale. Elles sont organisées, elles sont fondées sur le fait que dans l'économie de la déportation, dans la plantation esclavagiste, dans les colonies et puis dans les bidonvilles, dans les campements et dans les quartiers populaires, s'expérimente en permanence des formes de surexploitation, de surviolence, de suroppression. Et ces sociétés-là sont organisées autour de ça, et qu'elles ont besoin de reproduire en permanence des formes de ségrégation interne qui sont liées à leur modèle économique, à leur modèle politique, à leur modèle social. Et que du coup, l'islamophobie est pas juste un trompe-l'œil. Mais c'est aussi ça sert à la reproduction d'une structure fondamentale de la société française, et qui est le fait que c'est une société impérialiste.
Molle.
parole. L'examen des papiers ou variations monotones sur les fonctions des papiers. Le gouvernement exige le port des papiers. Papier pour travailler. Papier pour habiter. Papier pour être en règle. Papier pour être identifié. Papier du véhicule. Papier peint. Papier à lettres. Papier buvard. Papier pour se moucher. Papier pour se promener. Papier, vos poètes. Papier pour circuler. Papier pour payer. Papier pour vérifier les papiers. Papier pour vérifier les papiers de ceux qui ne devraient pas en avoir. Papier pour avoir des papiers autorisant le port des papiers. Hey, c'est profond ça. J'ai papier. Papier pour exister. Papier pour s'essuyer. Papier policier. Papier militaire. Papier à dessin. Papier te refusant des papiers. Papier, yeah. Papier, papier, papier journaux, papier mâché. Papier qui autorise à crever. Papier pour s'exprimer. Papier pour se taire. Papier à rouler. Papier pour assassiner. Papier pour l'égalité. Papier pour la liberté. T'es pas à pied ? Papier interdisant les papiers sur la voie publique. Faux papier. Papier tamponné. Papier laissé passer. Papier d'emballage, papier cadeau. Papier pour arrêter, papier pour s'occuper. Papier pour emmerder ceux qui n'ont pas de papier. Papier pour faire des cocottes en papier. Papier pour déchirer, papier pour imprimer. Papier pour déprimer. Papier pour ficher. Papier pour faire des nappes en papier. Papier, s'il vous plaît. Papier contrôlé.